Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Les étoiles sous le chat à venir On écrit sur les murs de nos rêves Et on écrit sur les murs de nos rêves
Rêver, imaginer, se lancer, réécrire et rebondir, c'est ce qu'ont fait les entrepreneurs que je vais interviewer dans le tourbillon Family. Elles accompagnent notre quotidien de femmes, de futures ou jeunes mamans, nous soutiennent dans la maternité, elles éveillent nos enfants et les regardent grandir. Alors qui sont les créateurs et les créatrices derrière ces marques qui révolutionnent l'univers de la famille? En grande curieuse et passionnée d'entrepreneuriat, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces visionnaires qui sont allés au bout de leurs idées pour apporter des solutions et une touche de bonne humeur au sein de nos tribus. Des invités nous racontent sans filtre comment est né leur projet, de l'idée jusqu'au succès. Bienvenue dans le Tourbillon Family. Pour ce tout premier épisode, je suis ravie, que dis-je, je suis très très heureuse d'accueillir la marque Luni, célèbre pour ma fabrique à histoire, le boîtier qui a révolutionné l'imaginaire des enfants. C'est Maëlle, la fondatrice, qui nous raconte tout son parcours depuis l'idée jusqu'au succès fulgurant de Luni. Si Maëlle grandit dans l'imaginaire depuis sa plus tendre enfance, elle a aussi bien les pieds sur terre et c'est déjà très jeune qu'elle écrira sa propre histoire entrepreneuriale. Et c'est lors de son projet d'études qu'elle a un véritable déclic. Les enfants passent trop de temps sur les écrans, alors Maëlle veut trouver une alternative ludique pour développer leur imaginaire. L'idée est immédiatement bien accueillie par le jury de son école, et c'est le début de l'aventure. Tout va alors aller très vite, et l'histoire de Luni ressemble déjà à un véritable conte de fées. Bien sûr, Maëlle connaîtra quelques obstacles, mais elle nous raconte sans filtre les échecs qui l'ont fait grandir. Vous connaissez sûrement les histoires de Suzanne et Gaston. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Maëlle et Luni. Bonne écoute! Bonjour Maëlle.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce tout premier épisode dédié à l'entrepreneuriat et aux marques de la famille.
Merci de me recevoir.
Alors, tu es l'une des cofondatrices de Luni.
Oui.
Très connue pour Ma Fabrique à Histoire, qui a un peu investi tous les foyers français en une vitesse assez record. Avant de revenir à toute la genèse de la marque, on va parler un petit peu de ton enfance à toi. Si tu veux bien.
Bien sûr.
Dans quel cadre tu as grandi, où tu as grandi et avec quoi tu aimais jouer, toi, quand tu étais petite?
Alors, je suis née à Paris, mais à 5 ans, j'ai emménagé à Fontainebleau, parce que mes parents ne voulaient pas que leur enfant reste trop à Paris pour être près de la forêt, notamment. Et donc, j'ai eu un environnement très, très nature, très autonome, pas du tout dans la grande ville, dès 5 ans. J'étais une enfant beaucoup dans son imaginaire, à tel point que ça a pu me porter préjudice parfois. Une anecdote que j'adore raconter, c'est que mes parents se sont fait convoquer dans le bureau de la principale de la maternelle quand j'avais 4 ans, 4-5 ans, et parce que j'avais dessiné des grandes portes à la craie partout sur les murs de l'école extérieure. Et donc du coup ils m'avaient grondée et en fait moi je comprenais pas du tout où j'avais dessiné ces portes parce que j'avais embarqué une amie avec moi et pour moi ces portes nous emmenaient dans des mondes fantastiques et à chaque fois que je passais la porte ça m'emmenait dans un nouveau monde et c'était ça pendant toute mon enfance, c'est-à-dire que c'est marrant parce que j'ai très très peu de souvenirs de la vie quotidienne par contre des souvenirs dans mon imaginaire j'en ai plein je vois à chaque fois, parce que mes parents ont toujours une maison à Fontainebleau, à chaque fois que j'y vais que je me balade dans les rues, je vois exactement là où je me faisais mes mondes imaginaires. Ouais. Vraiment, il y avait des buissons, il y avait des... c'était tout ça, c'était mon univers. Et les jeux auxquels j'aimais jouer quand j'étais petite.
Tu as des frères et sœurs ?
J'ai une grande sœur et un petit frère.
Okay.
Et ce qui est génial, parce qu'en fait, je suis restée enfant très longtemps parce que petite, mais j'avais mon petit frère et puis pourtant, j'avais aussi ma grande sœur. J'ai adoré être la seconde. Et je jouais beaucoup au Playmobil et au Capla.
Ok.
Et en fait, je construisais des maisons à mes Playmobil et je leur imaginais toujours plein d'histoires. Et ça pourrait durer des heures. Et le petit clin d'œil, c'est que c'était toujours accompagné en fond d'une histoire audio.
D'accord.
Dans ma chambre, je faisais tourner que des CD ou des cassettes audio tout le temps.
C'était quoi, par exemple, les histoires ?
Oh, ça pouvait être vraiment tout et n'importe quoi, des vieux contes, des histoires de Disney. J'ai même appris mes multiplications en écoutant des cassettes audio.
Ouais.
Donc vraiment, c'était les Marlène Joubert, j'en étais folle. Donc c'était toute la collection, j'avais une énorme collection de CD et de cassettes. Et donc je mettais en fonction de ce que j'avais envie d'écouter.
Est-ce que tu te souviens ce à quoi tu aspirais pour plus tard, ou comme on dit, qu'est-ce que tu aurais aimé être quand tu serais plus grande ?
Faire mes projets, ça ouais. C'était sûr et certain. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, donc je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mmh. Mais quand j'étais petite, par exemple, je voulais être prof de dessin. Et puis au fur et à mesure des années qui passaient, j'ai voulu être décoratrice d'intérieur, puis architecte d'intérieur. Et puis est arrivé le moment où j'ai découvert l'univers du design, et donc j'en ai fait mes études et puis mon métier plus tard après. Mais depuis toujours, c'est voilà.
C'était plutôt artistique.
Mon projet qui est déjà artistique, et puis vraiment, c'est moi qui le crée de A à Z. Donc d'abord en auto-entrepreneur, j'avais plus ça dans la tête, et puis après, finalement, j'ai créé mon entreprise.
Ouais. Et alors, comment t'en es venue à des études de design ? C'est quoi d'ailleurs le design ?
Alors, le design, elle est dure ta question. Le design, c'est plus pour moi un état d'esprit. Une méthode en fait pour faire des projets, une méthode d'ailleurs pour travailler, une méthode dans sa vie, ça peut être applicable à tout. Le design, c'est pas pour rien que voilà, le design thinking a un peu explosé ces dernières années. C'est pas juste au domaine de je vais imaginer, conceptualiser une belle chaise. En fait, ça s'applique à tout. Moi, j'ai été passionnée de design systémique, donc c'est-à-dire regarder un petit peu la grande picture, et puis après aller détailler à l'intérieur. Mais effectivement, moi, l'univers du design, je l'ai découvert à 14 ans quand j'ai fait mon stage en troisième chez une décoratrice d'intérieur, du coup, parce
comme
que je voulais
ça sert parfois ces petits stages.
complètement. En fait, c'est là où en fait tu te dis qu'il y a peut-être des étoiles qui s'alignent à un moment donné. Donc je fais mon stage chez cette décoratrice d'intérieur parce que je veux en faire mon métier. Et finalement, j'ai beaucoup de chance puisque cette semaine-là tombe la semaine du salon du design.
D'accord.
Où elle m'emmène. Et elle faisait, je me souviens, elle faisait son business, ses négociations auprès des divers fournisseurs avec qui elle travaillait. Et moi, je me suis baladée dans l'immense hangar, c'était gigantesque, et j'étais toute seule. Et j'ai découvert cet univers-là, d'abord esthétique. Donc effectivement, moi, mon premier attrait par le design, c'était des beaux meubles, des beaux choix de matériaux, etc. Et puis après, j'ai creusé, et puis je me suis rendu compte que c'était moi ce qui m'intéressait. C'est bien plus dans le design, c'était des concepts innovants, c'était l'innovation, c'était faire des projets qui ont du sens pour des vrais problèmes qui existent. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée à Strat et que j'ai découvert donc Strat, l'école où j'ai fait mes études, j'ai découvert cette manière d'aborder le design. Ça a été pour moi une évidence.
Ouais.
Et donc j'y suis allée la tête la première.
Donc c'est combien d'années d'études à Strat ?
C'est 5 ans.
5 ans. Et à quel moment sont arrivés les premiers projets pour l'école, les premiers projets d'études ?
Tout de suite.
Tout de suite.
On te met tout de suite dans le bain. Effectivement, la première année, elle est beaucoup plus pratique et à mettre les mains dans le cambouis. On teste énormément de choses, de méthodes pour dessiner, pour apprendre à dessiner, pour apprendre la perspective, apprendre les logiciels, apprendre à maîtriser certains matériaux. Enfin, voilà, c'est tout ça. C'est plus du domaine de, comment dire, une prépa d'art, quoi. Et puis après, effectivement, dès la deuxième année, on rentre dans le dur avec des projets, et que ça peut être des projets totalement fous où on laisse l'étudiant carte blanche sur plein de sujets divers, ou des projets où ce sont des entreprises qui demandent aux écoles de missionner les élèves sur des problématiques, sur des
D'accord.
missions précises, sur des projets précis, soit pour élargir le regard de l'entreprise, soit au contraire pour être très pratique, pragmatique dans certaines problématiques qu'ils ont. Et ça, ça donne une richesse pendant les études où on a pu tester plein de choses et aussi voir des projets prendre vie en entreprise. Donc oui. C'est très gratifiant.
Et alors, c'est à ta dernière année d'études qu'est arrivé le projet pour l'Uni ?
Oui, ouais. Tout à fait.
Alors raconte-nous.
En cinquième année, on demande à l'étudiant d'écrire un mémoire d'abord sur la problématique, sur le sujet de son choix. Moi, très naturellement, j'ai choisi l'imaginaire parce que passionnée de contes, de légendes, de mythes depuis que je suis toute petite. Je pense que tu l'as compris avec le fait que je me crée des mondes imaginaires. J'ai été aussi ultra attirée d'abord par les contes puisque c'était ce qu'on me racontait. Je me souviens de ces gros livres que ces grosses compilations de contes que mes grands-mères me racontaient quand j'étais petite, et c'était vraiment un bonheur à chaque fois que j'allais chez elles. C'était un incontournable, vraiment. Donc des contes, les légendes, et puis plus tard j'ai été passionnée de mythologie égyptienne, grecque, tout ça. Et donc très naturellement, en dernière année à Strat, j'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire pour étudier ces mythes, ces légendes, et aussi les ramener à quelle est leur place aujourd'hui.
D'accord.
Et le constat, finalement, au fur et à mesure de l'écriture de ce mémoire, c'était d'observer que la créativité était en baisse, notamment la créativité des enfants, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était que celle des enfants, parce que c'est pendant que tu es enfant que tu développes le plus ton imagination, bien que adulte, tu continues de l'utiliser, en tout cas, vraiment là où tu fais naître et tu éveilles ton imagination au max, c'est vraiment quand tu es plus petit. Et que cette créativité et cette faculté d'imagination, elle était en baisse à cause de trop de représentations visuelles, notamment trop d'écrans. Donc je me suis intéressée à la surexposition aux écrans, qui était un sujet finalement qui était en 2012 très peu étudié, mais quand même étudié. Il y avait quand même certaines études, et notamment certains scientifiques, neuroscientifiques, qui alertaient sur les dangers de la surexposition aux écrans.
Toi, t'avais des enfants dans ton entourage où tu pouvais.
J'avais des enfants dans mon entourage, et j'avais pu constater que effectivement, dès quelques mois, dès un an, 18 mois, ils savaient sans aucun problème aller prendre la tablette, aller sur Skype et appeler leurs grands-parents. Après, il y a plein de choses fantastiques qu'on peut faire sur des écrans. Moi, là où je mets en garde, c'est la surexposition, parce que ça provoque un côté abrutissant, un peu léthargique. L'enfant, il n'est pas du tout éveillé quand il regarde un écran, notamment un écran de tablette ou de téléphone, qui est une lumière bleue. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a alertée, parce que, en fait, pour moi, la créativité, c'est une des armes, si ce n'est l'arme, la plus importante pour affronter la vie, parce qu'elle permet de se sortir d'énormément de situations. Pour moi, la créativité, c'est pas juste faire un beau dessin, une belle peinture ou ce genre de choses. C'est en fait, je suis face à une problématique, à un problème dans ma vie. Comment je fais pour l'affronter, le résoudre, le passer, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est cette problématique que je veux attaquer pour mon projet de diplôme, parce qu'ensuite, une fois qu'on a écrit le mémoire, c'est en dégager une problématique pour en créer un projet. Et donc, je me suis attaquée à la problématique de l'imaginaire et de la surexposition aux écrans, et puis ça a donné ma fabrique à l'histoire. Je pense qu'il y a des influences, c'est sûr qu'il y a des influences, parce que le petit boîtier ressemble à un petit transistor des années 70 revisité, et moi, effectivement, dans mon amour esthétique pour le design, gros amour pour les objets des années 70. Ouais. Donc, et puis on était dans le domaine de l'audio, donc faire cette forme-là comme une petite radio, ça faisait du sens. Et pop, la fabrique à l'histoire est née.
Alors comment elle est née ? Parce que je pense qu'il y a eu des étapes, beaucoup d'étapes entre l'idée et la concrétisation de ce joli boîtier vintage.
Oui.
Comment l'idée est arrivée ? Donc tu faisais ton mémoire et là d'un coup, une nuit, tu t'es réveillée en sursaut.
Alors c'est pas ça, mais c'est presque ça. J'étais en brainstorming et j'étais en train de discuter à voix haute pour faire naître les idées. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis mis à... Il y a cette phrase, effectivement, « radio des imaginaires » qui a popé dans ma tête. J'ai dessiné sur un petit bout de papier une petite radio. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc. En tout cas, j'étais sensible à cette idée-là. Et je l'ai présenté au directeur de Strat, qui était mon mentor, qui était la personne à qui, dès que je lui présentais quelque chose, s'il ne faisait pas « waouh », je recommençais. où j'approfondissais. Mmh. J'avais besoin de, pardonne-moi l'expression, de le mettre sur le cul pour me dire, là, en fait, tu tiens quelque chose d'original, qui n'a pas été créé partout, enfin, vraiment un truc qui sort du lot.
Et justement, tu avais étudié tout ce qui se faisait déjà sur le marché pour les enfants ?
Non.
Non.
Alors, dans la démarche de designer, on demande de faire une veille. Une fois qu'on a une première bribe d'idée de quelque chose, bah, c'est regarder effectivement le marché qui existe. Moi, à ce moment-là, je ne l'ai pas fait parce que je fonctionne beaucoup à l'intuition. D'accord. Cette étude de marché, elle est venue après, quand, avec mes associés, on s'est dit on va créer une boîte sur ce projet-là. Et donc, on a regardé ce qui existait.
D'accord, okay.
Mais avant, j'étais très instinctive et j'ai dû regarder quand même pour voir s'il n'y avait pas quelque chose quand même de similaire, mais je n'ai pas fait une vraie étude.
Ouais.
Voilà. Et finalement, ça a été vraiment très, très intuitif. J'ai une manière de créer très intuitive.
D'accord.
J'écoute beaucoup mes intuitions. Je ne vais justement pas aller étudier des choses pendant longtemps parce que j'ai peur d'être polluée. J'aime bien avoir une démarche très naïve et de ne pas connaître ce qui existe pour potentiellement imaginer quelque chose qui sort du lot.
Ouais. C'est pas plus mal, ça te laisse l'esprit libre.
C'est ça, ouais. Et une fois que...
Et donc ce mentor t'a fait « waouh ».
Je me souviens très bien, je lui ai montré mes carnets parce que j'avais pas qu'une piste à lui présenter, j'en avais plusieurs. Mmh. Et donc je lui présente celle-ci, celle de l'Uni. Je tourne la page pour lui présenter la suivante et lui retourne la page à l'inverse et dit « non, non, ça, là, tu as quelque chose, en fait.
Mmh. »
Je me souviens, mais dit « waouh ». C'est ça.
Ouais.
Et surtout que c'était un grand moment pour moi. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier parce que je te parlais d'intuition. Et ben j'ai l'intuition de quand je suis rentrée à Strat, j'ai eu cette phrase qui a résonné dans ma tête qui était ton projet de diplôme à Strat sera ton projet de vie.
Mmh.
Et donc je savais que mon projet de diplôme, je voulais en faire un projet qui allait prendre vie après l'école.
Ouais. Dès la première année.
Dès la première année. Vraiment, je l'explique pas. Ouais. Hein, c'est ce qui s'est passé. Cette phrase qui a résonné dans ma tête. Ouais.
Et alors, donc là, il te valide ce projet en quelque sorte.
Oui.
Quelles sont les étapes suivantes pour toi ?
Les étapes suivantes, c'est de créer un scénario d'usage, de regarder justement comment on utilise cet objet-là. Moi, je voulais qu'il n'y ait que les fonctionnalités basique pour pouvoir créer son histoire. Comme je voulais que l'enfant il soit acteur dans une démarche créative, et c'est pour ça que j'ai imaginé qu'il choisisse les éléments de son récit. Je pense aussi très inspiré des livres dont tu es le héros, dans cette démarche où on est acteur finalement pendant l'histoire. Et ça, pareil, c'était assez intuitif. Hein, c'est venu comme ça assez rapidement. Et puis après, au niveau du design, je me suis dit que les boutons, que les fonctionnalités qui permettent de créer ton histoire, de l'écouter, et point barre.
Mmh.
Pas besoin d'en rajouter et que ça puisse faire, je sais pas, que ça clignote, ça, non. Que ce qu'il y a de base. Et donc finalement, le design s'est créé en fonction de ses fonctionnalités primaires. Et après, je suis partie en maquettage. Donc faire une maquette non fonctionnelle, c'est-à-dire juste montrer à quoi pouvait ressembler
physiquement
l'objet,
le boîtier,
exactement. Mais voilà, on pouvait pas l'utiliser. Mmh. Et après, j'ai créé une vidéo qui existe encore sur Internet. Le projet s'appelait Story avec deux i au début. Et en fait, cette vidéo permet de... J'ai mis des petits effets spéciaux de rien du tout dessus, mais qui permettaient juste de comprendre comment on utilisait cet objet-là. Et je présente mon projet devant... on présente le projet devant un jury. Un jury qui est neutre, qui est composé soit de designers, soit d'entrepreneurs.
D'accord.
Que l'école sélectionne. Et d'ailleurs, j'ai participé pour la première fois l'année dernière au jury. Donc j'étais de l'autre côté pour juger les projets d'étudiants, qui étaient fantastiques.
Ah, sympa.
Ouais.
Et donc là, face au jury, qu'est-ce qu'ils te disent ? Comment ça se passe ?
Déjà, je me souviens, j'étais la dernière à passer.
Ouais.
À 17h, il faisait chaud. La pièce était remplie parce que tous les autres étudiants étaient passés. Donc j'étais dans un état de stress pas possible. Et je présente, une fois que je suis lancée, je présente de A à Z, je monte la vidéo, j'explique ma démarche de mémoire. Et en fait, le jury a très très bien accueilli le projet. J'ai eu le coup de cœur de la salle dans laquelle, de tous les projets dans laquelle j'ai, avec laquelle j'étais, et les félicitations. Et donc du coup là, je me suis dit ok, on passe à l'étape d'après, qui est d'aller en fabriquer des prototypes fonctionnels pour les tester auprès des enfants et voir si finalement c'est eux qui sont le plus intéressés et si finalement ça les intéresse vraiment.
Et donc là, t'es toute seule, tu restes toute seule sur ce projet. À quel moment les cofondateurs arrivent?
Sur mon projet de diplôme, je suis toute seule puisque c'est le jeu.
Oui.
Et puis j'étais très contente d'avoir ce moment-là pour moi et pour approfondir le projet et pour être sûre que c'était lui que je voulais lancer plus tard en entreprise. Mais par contre, ça faisait plus d'un an qu'avec mes trois associés de l'Uni, donc du coup Thomas, Eric et Igor, on parlait de monter une boîte ensemble. Donc en fait, on parlait de monter une boîte ensemble avant que l'idée de la fabrique et l'histoire me vienne.
D'accord. Des amis à toi, c'est ça?
Des amis, c'est ça. On se connaît depuis qu'on a entre 16 et 18-19 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais pas monter ma boîte toute seule. Je suis persuadée que c'est en s'associant avec des personnes de confiance, avec qui ça matche bien, que en fait, un projet peut voir le jour. Et que d'ailleurs, l'aventure aussi est d'autant plus excitante parce que tu la partages, tu confrontes les idées, tu discutes, enfin voilà. Donc je n'encourage que les entrepreneurs à trouver une ou plusieurs personnes avec lesquelles s'associer. Et en fait, profil complémentaire. C'est-à-dire que moi, designer, Eric, ingénieur, Igor, plus business, et Thomas, venant plus du monde du digital, prototypeur, voilà, très manuel. Ça s'est fait très naturellement. En fait, je les ai invités un soir à une soirée. Mais alors, il n'y avait pas que eux, mais ça a été les premiers à arriver.
D'accord.
Et je leur ai dit, mais vous voulez pas qu'on monte une boîte ensemble? Et ils m'ont répondu, mais on vient d'en parler dans le métro. Et on s'est regardé halluciné. Et du coup, à partir de ce moment-là, pendant un an, on se voyait très très régulièrement pour se dire, elle va ressembler à quoi cette boîte? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Eux ont cru tout de suite au projet également.
Ils me font confiance aveugle, c'est très agréable pour moi sur la partie concept, sur la partie idée. Ils ne font que me porter. Et eux, après, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit réel.
Ouais.
Mais ce qui, du coup, est pour moi, c'est du luxe, du grand luxe.
Parce que eux sortaient d'études aussi,
oui,
à ce moment-là. Ouais, donc vous étiez tout neuf, en gros.
Thomas, un peu plus âgé, il avait fait un peu de freelance, un peu en entreprise, mais sinon, effectivement, sorti d'école direct.
Ouais.
Ouais, on était des bébés.
Et donc là, vous créez le prototype. Comment ça se passe? Combien de financement il vous faut? Parce qu'il y a tout cet aspect financier aussi. Quand on lance une boîte, surtout entre amis, on peut avoir des étoiles plein les yeux. Et après, il y a un peu le concret qui est là.
Oui. Ce qui s'est passé, c'est que toujours... encouragé par le directeur de Strat, donc qui était mon mentor, il nous conseille de postuler à une subvention de la région Île-de-France qui s'appelait appel à prototype, aujourd'hui elle s'appelle Proto, qui en fait le deal c'est que la région Île-de-France finance un projet, et le deal c'est de le présenter quelques mois après en exclusivité pour la première fois à Futur, anciennement Futur en Seine, qui est le plus grand salon technologique européen qui se déroule tous les mois au mois de juin. Et donc le deal c'était ok, on vous finance les 10 premiers prototypes de votre fabrique et histoire, mais vous les présentez au salon. Et donc pendant 10 mois on a fait le cliché de l'entrepreneur chez lui. On était dans l'appartement d'Igor qui était devenu clairement un Fab Lab, et son salon était un Fab Lab, sa chambre était notre bureau, enfin, c'était une période vraiment fantastique. Et on a passé des mois à faire en sorte de créer des prototypes fonctionnels, sachant que c'était la première fois qu'on faisait ça, et donc on avait tout à apprendre. Et on a été du coup soutenu par Strat, donc mon école, et par un organisme qui s'appelle le Cube, qui a ici les Moulineaux, qui est un centre d'art numérique, qui en fait fait beaucoup de projets digitaux avec des écoles, notamment là c'était avec la Grand Paris Seine-Ouest, donc de 6 écoles de cette ceinture-là, qui en fait avec qui on a fait les fabriques à histoire, et eux ils ont apporté l'expertise, notamment ils nous ont présenté les deux premiers auteurs qui ont travaillé avec nous, et puis après on a pu avant de le présenter à Futur en Seine pour voir quand même observer certaines choses, on a pu les tester en classe avec certains élèves de CP, CE1.
Ah oui?
Ouais, c'était super.
Comment ils ont réagi?
super bien. Déjà, c'était un objet assez atypique dans sa forme. À l'époque, il était en bois. Et puis, le fait de pouvoir choisir son héros, son lieu, son objet pour créer l'histoire, c'est quelque chose qui a totalement marché avec eux. Donc, on était ultra contents. Et puis, en parallèle, on a aussi créé une application qui était les premières bribes qui aujourd'hui de mon studio Luni qui permet d'enregistrer soi-même ses histoires. Et ben là on avait créé cette application pour les faire tester auprès des enfants de CP et de CE1.
D'accord.
Et donc ça, c'était tout un projet en fait qu'on a fait avec eux sur plusieurs mois. Donc,
ah génial.
Ouais, c'était super.
Comment vous avez sélectionné l'école?
C'est le Cube qui D'accord. s'occupait, qui ce sont des classes avec lesquelles des écoles avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Et eux, ils ont voilà, c'était ils se sont occupés de cette partie-là.
Génial.
Ouais.
Et donc pour toute la fabrication du boîtier, comment ça se passe? Vous contactez qui? Vous dirigez vers qui?
Pour la fabrication du boîtier, on va dans des Fab Labs et en fait on leur demande conseil. Et puis comme je te disais, Thomas, un esprit très très manuel, très pratique. Tout de suite, il a su quel matériau choisir, comment faire pour faire que en fait on passe, il y a une transparence à travers le bois, pour faire passer les images. Et puis après, Eric qui était ingénieur, qui aussi a amené son expertise au niveau code, mais qui aussi a appris l'univers de, enfin qui a découvert l'univers de l'électronique, parce que finalement il en avait fait très peu pendant ses études. Et en fait, ça a été à la fois du conseil en Fab Lab, et puis à la fois nous-mêmes, on s'est débrouillé avec nos intuitions à tester des choses. Ah bah ça marche pas, on va tester autre chose. Donc on allait dans des magasins électroniques, on allait dans, enfin voilà, on a un peu vadrouillé à essayer de trouver les meilleurs matériaux et les meilleurs composants à l'intérieur. Et c'était de l'Arduino, c'était par exemple, mais c'était vraiment à la mano, hein, ouais. Parce que ça ressemble pas du tout à forcément une carte électronique industrielle. Là par exemple, pour la batterie, il me semble que c'était des batteries de voitures télécommandées. Donc on faisait vraiment comme on trouvait, comme on pouvait. Mais l'important pour nous, c'était de faire en sorte que ça marche.
Ouais. Et donc pour la fabriquer, après, vous avez fait appel à qui
Dans les étapes, donc on a fait nos premiers prototypes en bois à la main par nous-mêmes. On les a fait tester à Futurescence. Ça a été fabuleux puisque les familles et les enfants ont été très réceptifs à l'objet. On a gagné le prix du public à ce moment-là. Enfin, c'était super et ça nous a vraiment conforté dans l'idée de commercialiser cet objet, de passer à la phase du coup industrielle. En plus, on a pu observer ce qui marchait et ce qui marchait moins sur ce premier prototype, notamment le fait qu'il était trop grand pour des mains d'enfants. Mmh. Le bois, ça ne plaisait pas aux enfants. En plus, c'était fragile, trop lourd. Donc tout ça, on a fait évoluer en un boîtier plus petit, plus résistant, plus coloré, en plastique pour la phase industrielle. Donc là, on a fait une 3D. Moi, en fait, j'avais mes intuitions, j'avais fait quelques croquis. Certains designers savent très très bien maîtriser la 3D. Moi, par exemple, je suis mais nulle. Donc, j'ai donné mes intuitions pour que Thomas fasse la 3D. Donc, on avait une 3D. Et puis ça, on l'a donné à un bureau d'études qui, après, a pu nous faire un prototype, un premier, ce qu'on appelle le golden prototype, après des mois de recherche, hein, bien évidemment, pour passer ensuite en phase industrielle. Donc c'est D'accord. le prototype que tu as entre les mains, qui tu dis, tu le valides pour dire, ça, c'est celui qui va passer en mass prod.
Et donc combien de temps entre le premier proto et la première phase d'industrialisation?
Alors le premier prototype fonctionnel fait à la main en bois, c'était en juin 2014, du coup. Et le dernier qu'on a eu entre les mains, donc le Golden Prototype pour valider qu'on passait en production, c'était en février 2016. Donc tu vois, il y a eu du temps. Après, c'est parce qu'il a fallu qu'on trouve le bureau d'études avec qui travailler. D'abord, on est allé frapper à la porte de bureaux d'études français. Mmh. Mais les tarifs étaient beaucoup trop élevés pour le petit portefeuille de jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui avaient zéro en poche.
Ouais.
Donc on a travaillé avec un bureau d'études que quelqu'un en salon nous avait présenté, qui a lyonnais hongkongais, et qui eux avaient des usines chinoises à nous présenter. Et donc on a travaillé pendant un an et demi à la conception de ce prototype industriel. parce qu'il y a eu plein d'allers-retours. En plus, le fait que ça soit fait à distance avec Hong Kong, ça a créé, ça a allongé en fait, oui, la phase d'échange.
Donc toi, tu t'es déplacée souvent là-bas, ou l'un des...
Moi, non, mais mes deux associés, oui, Eric et Igor, beaucoup. Et puis finalement, on est arrivé à quelque chose qui nous satisfaisait et on est passé en production en mars 2016.
D'accord. Et donc là, il se passe quoi ? T'as tous tes boîtiers, t'as prévu combien de boîtiers à la vente ?
Cette année-là, mon associé Igor a un pif monstrueux pour les volumes. Et après, il y a aussi le fait que quand on se dit qu'on a un volume, on le fait coûte que coûte. Cette année, on se donne 20 000 pièces à écouler la première année, ouais, sachant qu'on commercialise à partir d'août. Donc ça nous laisse finalement que 4-5 mois.
Ah oui, c'est une petite,
ouais,
année, quoi.
Oui, parce que le temps que tu lances la production en mars, mais le temps que la production soit faite, puis après qu'elle arrive dans les stocks, tu as quand même quelques mois qui s'écoulent. Donc on reçoit les premières prods en août 2016 et on en a 20 000 à écouler.
Et vous les stockez où ?
On les stocke chez un logisticien qu'on a trouvé. Et en fait, ce qui s'est passé aussi pendant la phase où on travaillait ce prototype industriel, on n'a pas attendu qu'il se fasse. On a participé à énormément de concours de pitch, de salons, d'ailleurs de tech, d'entrepreneurs, de famille, de jouets. Enfin, là où on pouvait y être, on y allait pour être très très visible, pour oui, voilà, ce qui a permis à la fois de roder notre pitch, de s'entraîner, de créer une communauté, d'attirer des gens, de rencontrer, de se faire un réseau. Enfin, tout ça, c'est important, de la presse aussi. Donc,
oui, vous arriviez à parler de tout le concept oui, avant même finalement d'avoir le boîtier final.
Oui, oui, oui. Et ce qui a vraiment changé les choses, c'est qu'on a fait notre crowdfunding en mars 2015 sur Ulule, parce que en fait, c'était la première fois où on a vu que les gens étaient prêts à dépenser de l'argent pour cet objet-là, sachant que en fait, quand t'es en salon, quand tu rencontres des gens, tu peux dire en fait, c'est génial qu'on te dise que ton concept est fort, mais de là à ce que quelqu'un sorte un billet pour l'acheter, en fait, il y a tout un monde. Et donc là, on a eu plus de 450 précommandes, et surtout, on a eu notre première base de communauté d'ambassadeurs qui en fait ont été les personnes qui ont pu eux-mêmes au mieux parler de nous, du projet, à d'autres amis à eux, donc des parents qui en parlent à des parents, en fait, ça fait des petits. Et de là, on a commencé vraiment à avoir une belle communauté active, très active. Et ce qui fait, quand on a commercialisé, il y avait déjà des personnes qui l'attendaient et qui en avaient parlé. Et ça, c'était top. Et par contre, en termes de visibilité, on voulait pas, comme c'est un nouvel objet finalement qui n'existait pas, on n'était pas là en train de vendre par exemple un oreiller où tout le monde sait ce que c'est un oreiller et avec une nouveauté apportée à l'oreiller. Non, là c'était un objet totalement nouveau au niveau du look, au niveau de l'usage, etc. Et du coup, on s'est dit, nous on veut qu'il soit visible en magasin, on veut pas juste faire de la vente sur notre site internet, parce qu'on pense que c'est en l'utilisant en magasin qu'on peut comprendre ce que c'est, et puis après du coup être séduit ou pas par le concept. Et du coup, tout de suite après Future en scène, en 2014, on est allé toquer à la porte de Nature et Découverte pour aller vendre notre concept. L'anecdote aussi que je raconte souvent, qui me tient énormément à cœur, c'était, on était très excités, on rentre dans un Nature et Découverte au pif dans le 13e, on demande à une vendeuse comment on vend ce boîtier chez Nature et Découverte. Elle nous donne le contact du directeur des achats, l'email.
C'est incroyable, cette histoire.
Ouais. Et en fait, lui, il nous répond dans les 10 minutes à notre mail pour nous donner rendez-vous au siège social, et puis hop, c'était parti. Nature et Découverte ont attendu plusieurs mois, enfin même un an et demi avant de commercialiser, mais on faisait des rendez-vous régulièrement chez eux. C'était génial.
C'est dingue.
Et d'ailleurs, c'était en dehors de Paris et on y allait en stop.
Ah oui.
Et on rentrait comme ça. C'était super. Enfin, c'était galère, mais c'était une super période. Et donc, ce qui était top, c'était de se dire, on sait quand notre produit va être enfin prêt, après tous ces mois d'attente, qu'on a une enseigne qui est prête à le distribuer, et pas n'importe laquelle. Et en parallèle, on avait donc Nature et Découverte et aussi Oxybule, qui était pareil, très partant pour commercialiser. Donc ça a été les deux premiers gros clients de l'Uni, et en fait best-seller chez eux dès le début.
Parce que eux avaient pris combien d'unités à ce moment-là?
Au début, alors Oxybul, il me semble que c'était 1000 et Nature et Découverte 300, mais finalement de semaine en semaine, les commandes ne faisaient qu'augmenter. Et ce qui faisait qu'à la fin 2016, on avait écoulé notre stock, et en janvier 2017, on était en rupture de stock.
Et oui, gros succès. Alors ouais. Comment vous avez fait à ce moment-là, rupture de stock?
Bah, ça a duré très peu de temps, parce que finalement on a pu être assez réactif et demander la continuer de produire. Mais on a eu, je crois, 2 semaines, et puis on a mis le produit en rupture, et puis on a attendu. Mais
ça crée généralement encore plus de demandes quand il y a des ruptures.
C'est mieux quand ça se passe comme ça. Ouais.
Génial. Et tu disais que vous aviez créé aussi le site en parallèle.
On avait un site, mais par contre, effectivement, tu parles du Lunistore peut-être. Ouais. Oui. On a tout de suite, effectivement, dès septembre 2016, on a lancé le Lunistore, donc qui est cette plateforme où tu peux trouver tous les albums audio des éditions Luni. Déjà, l'envie de base, c'était de pas faire un objet entre guillemets, pardonne-moi l'anglais, mais one shot, c'est-à-dire que l'enfant va utiliser pendant quelques mois et puis après il va prendre la poussière dans sa chambre, comme ça se passe avec beaucoup de jouets. L'idée, c'était de faire un objet qui dure dans le temps, parce que ça fait partie de nos valeurs, des valeurs de l'entreprise, et puis du coup qui accompagne l'enfant en fait de ses 3 à 8 ans, donc du coup de lui proposer du contenu, parce qu'on n'écoute pas la même chose quand on a 3 ans que quand on a 8 ans, et donc du coup de lui proposer du contenu adapté à la fois à son âge mais aussi à ses goûts, et du coup on a lancé le Lunistore avec très peu d'albums au début, et puis très vite en fait on a fait venir l'expertise en interne. Ça a été une des premières expertises qu'on a recrutées chez l'Uni pour
une petite maison d'édition interne.
Exactement, ouais. Pour créer ce catalogue et l'enrichir au fur et à mesure, et puis avoir un énorme panel pour plaire à l'enfant.
Et alors, Suzanne et Gaston, qui sont les héros que tous les parents connaissent, voire détestent parfois,
tellement ils les entendent.
Ça, c'était les premières histoires qu'il y avait sur la boîte,
oui.
C'est ça.
Oui.
Et donc, ça a été créé en interne. Vous avez contacté quelqu'un
Alors,
comment ça s'est passé?
On n'a aucun auteur en interne.
Okay.
On travaille avec des auteurs professionnels à l'externe, vraiment comme une maison d'édition. Et effectivement, on a eu 4 premiers auteurs qui ont travaillé sur les 48 premières histoires de Suzanne et Gaston.
Et comment vous les avez trouvés?
Alors, les deux premiers sont Claude et Jeanne Delafosse, qui nous ont été présentés par Le Cube, comme je te disais, au moment où on faisait les prototypes. Donc, c'était vraiment au tout début. Et puis, eux, ils en ont écrit 24 et nous on en voulait 48, donc du coup on a démarché, enfin on a proposé à 2 graines d'auteurs de notre entourage d'écrire les 24 autres.
D'accord, ok.
Donc c'était des personnes qui n'avaient jamais publié, mais écrivains et passionnés, et donc du coup on leur a donné cette chance.
Génial.
Ouais.
Et le répertoire s'étoffe de plus en plus au fur et à mesure du temps. Comment vous sélectionnez? Est-ce qu'on vous contacte? Il y a Disney qui est chez vous, les monsieur, madame?
Oui. Alors, effectivement, on a 60 à 70% de notre contenu qui est du contenu original. Donc, on travaille directement avec les auteurs sur des projets, soit que l'auteur a envie de faire et on crée, parce que nous, la particularité, c'est qu'il faut créer une arborescence pour voir que ça marche sur la fabrique à histoire. Donc, voilà, on se met d'accord avec l'auteur sur le projet, donc sur le thème et sur l'arborescence. Et puis après, lui, il part en écriture. Soit c'est nous avons un projet en tête et on choisit un auteur pour travailler dessus, et puis s'il accepte, et ben hop, c'est pareil, c'est parti pour ce projet avec lui ou elle. Et effectivement, on a le reste qui est du contenu en partenariat. Donc on a effectivement du Monsieur Madame, du Il était une fois la vie, Hello Maestro, du Quelle histoire, du Disney. On a vraiment une éditoriale très claire là-dessus, c'est que nous, on veut pas faire de la course au licensing, et on veut proposer vraiment du contenu qui a du sens. Donc à chaque fois qu'on fait un partenariat, c'est un partenariat qui a du sens et qui rentre dans notre ligne éditoriale, qui est éveiller à la curiosité, enrichir le vocabulaire, vraiment le développement de l'enfant de manière générale, l'ouverture au monde, apprendre sans le savoir en écoutant ses histoires, etc. Et c'est pour ça que tous nos partenaires aujourd'hui sont sélectionnés avec soin, et quand, par exemple, Disney, le partenaire à Disney s'est posé, bah, on a réfléchi ensemble en fait à revisiter des vieilles histoires qui ne sont plus publiées, qui n'étaient plus publiées à l'époque des années 70, des classiques des histoires de Mickey, pour les remettre un peu au goût du jour et puis les proposer sur le Lunistore. Mais voilà, c'était vraiment un travail de fond sur ces histoires-là, et c'était pas forcément faire du contenu que les parents attendent ou qu'on voit un peu partout sur ces grandes marques-là.
Et ça prend combien de temps entre l'idée de l'histoire et la sortie d'une histoire ?
Ça dépend les projets, ça dépend le travail éditorial qu'il y a à faire dessus, les allers-retours qu'il y a à faire avec les auteurs, avec les partenaires. En général, c'est, je dirais, 2-3 mois. D'accord. En tout, du moment où on lance le projet et après on passe en enregistrement. Après, il y a des projets qui peuvent durer plus longtemps, hein, voire même plusieurs années. Oui. C'est vraiment, ça dépend du projet.
Et il y a le casque Octave aussi qui est sorti plus tard, si je ne me trompe pas, ou il était directement avec...
Non, il est sorti en 2018, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et effectivement, c'est venu après, très naturellement, de proposer un accessoire. Nous, en fait, la réflexion, c'était on ne voyait pas sur le marché... des casques qui soient résistants, qui soient facilement transportables, facilement pliables, sur lesquels on puisse pluguer aussi un autre casque pour les fratries. Mmh. Ce qu'on a pu observer des familles utilisatrices de la Fabrique à l'Histoire, c'était quand eux, ils avaient un casque, souvent c'était un casque qui se cassait très rapidement. Donc du coup, on s'est dit, on va proposer un casque qui est un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on voit sur le marché, donc à un prix un peu plus élevé, mais de qualité et qui dure dans le temps.
La Fabrique à Histoire, ça... comment on l'appelle d'ailleurs ? La Fabrique à Histoire, Ma Fabrique à Histoire ?
Ma Fabrique à Histoire, après les familles l'appellent la Luni, la boîte à histoire. Elle a plein de noms, mais le nom officiel est Ma Fabrique à Histoire.
Et comment est venu le nom Luni d'ailleurs pour la société ? Tu me disais au départ que ça devait être Story.
Story pour le nom de l'objet avec deux I, mais... finalement ça nous plaisait moins à l'oreille et puis c'était plus classique entre guillemets comme nom. Donc quand on a réfléchi au nom de l'entreprise, c'est venu assez naturellement. C'est pour le côté dans la lune, les histoires qu'on se raconte le soir, c'est un mot vraiment très doux, universel aussi, et les deux i, c'était pour le clin d'œil, c'est caché, c'est le clin d'œil de ma problématique de mémoire qui a donné naissance à tout ça, qui était réconcilier les imaginaires collectifs et individuels, qui symbolisent en fait les deux I.
D'accord. Voilà. Et alors là, après quelques années, donc ce que je disais en tout début d'introduction, vous avez investi tous les foyers français composés d'enfants. Mmh. Quel lien vous avez aujourd'hui avec les parents, la communauté ? C'est vrai que c'est une marque assez forte pour tout le monde.
On est très contents de la place qu'on a pu prendre dans les foyers et de voir qu'aujourd'hui, on est toujours aussi proche de notre communauté qu'à nos tout débuts. C'était quelque chose qui nous tenait beaucoup, beaucoup à cœur, en fait, de discuter avec eux régulièrement, de leur donner des nouvelles, d'être transparent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé très, très vite le groupe des Super Luniens sur Facebook, en fait, pour pouvoir partager tout ça dans un groupe privé avec toutes les familles qui avaient envie de rejoindre l'aventure et d'être plus acteurs et plus au courant de ce qu'on allait lancer, etc. Et en fait, là où je suis vraiment très fière de ce qu'on a réussi à faire et ce que les équipes aujourd'hui réussissent à maintenir, c'est ce lien avec la communauté, ce lien avec les familles qui est immuable, en fait, et qu'on a réussi à préserver. Et moi, quand je vois justement ces posts des familles qui partagent les moments avec la Fabrique à l'Histoire chez eux, je pense qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse.
C'est un peu sauvé aussi tous les trajets en vacances et,
aussi.
et les moments de temps calme.
Tout à fait.
Les parents vous remercient beaucoup, je pense, aussi pour tout ça. Vous êtes combien aujourd'hui chez Luni ? Donc, vous avez commencé à 4.
On a commencé à 4. On a fait nos premiers recrutements en mars 2017. Et à la fin de l'année 2020, nous serons 75.
Waouh !
Ouais. Et c'est très riche parce que du coup, déjà moi je m'attendais absolument pas à ça. Tu te projettes en tant qu'entrepreneur à te dire que ta société elle va grandir, si tout se passe bien, etc. Mais en vrai, enfin surtout moi qui n'ai pas fait d'école de commerce ou quoi, mmh. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tas. Et tu changes de métier, tu changes de métier tous les 6 mois.
Ouais.
Bon là, c'est en train de se stabiliser un petit peu, mais pendant les 4 premières années, je changeais de métier tous les 6 mois. Et là, bah, c'est de s'occuper d'une équipe, de faire en sorte qu'il y ait une organisation, une structure qui ait un cadre qui est solide, de pouvoir aussi innover en entreprise, d'être cohérent aussi dans les valeurs que tu portes, dans les produits que tu proposes aux familles, mais aussi comment tu travailles en interne, parce que moi, il est hors de question qu'il y ait une dissonance entre les deux.
Mmh.
Donc, c'est beaucoup d'implication, beaucoup de passion au quotidien, et on a une équipe formidable chez l'UNI. Donc, ouais. Ça permet aussi de faire ça, de faire tout ça,
mmh.
parce qu'ils sont très ouverts, enfin voilà.
Quelle a été pour toi la chose la plus difficile dans tout ce parcours ?
Ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été de gérer l'hypercroissance, parce que tout s'est passé très 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 vite. Et finalement, il y a plein de choses où on n'a pas eu le temps de se poser et de les construire correctement, notamment notre implantation aux États-Unis qui s'est fait un petit peu sous l'excitation, sous le fait que l'UNI ça marchait en France et depuis le début on a une ambition internationale, donc on se disait très vite on veut se développer à l'international. Le marché américain est un des plus intéressants pour nous, donc très très vite on a voulu y aller, mais finalement on a voulu y aller avec beaucoup d'insolence puisqu'on n'a pas préparer notre arrivée. Notamment moi, je me suis installée à New York pendant quelques mois, sans aucun cadre, sans aucun repère.
Tu connaissais personne là-bas ?
Je connaissais personne ou très, très peu de monde. Il n'y avait pas de cadre ni perso ni pro. Et en fait, tout ça a fait que ça a créé un ouragan. Je continuais mes missions en France. Donc, j'avais pas du tout j'avais un rythme de vie qui était vraiment extrêmement malsain, sans vie sociale. Enfin, c'était n'importe quoi, je ne recommande à personne. C'était vraiment une grosse erreur de ma part et un énorme échec, cette implantation. Et finalement, j'y suis restée que 5 mois parce que je ne tenais ni le rythme, ni l'environnement new-yorkais, finalement, ne me correspondait pas. En tout cas, tel que ça avait été fait, ça ne me donnait pas un cadre où je pouvais vraiment être stable et pouvoir justement aller affronter des choses plus challengeantes. Et je me suis retrouvée à m'effondrer à l'été 2018 et mon associé Igor est venu me chercher, est venu sur place, a vu que ça n'allait pas et m'a dit: je te ramène à Paris, ta place est à Paris parmi les équipes qui vont te donner de l'énergie positive. Et pendant plusieurs mois, je l'ai regardé comme un échec. J'ai mis plusieurs mois à me reconstruire de ça et puis finalement à avoir un regard doux sur ce qui s'est passé, sur moi-même, sur ce que ça m'avait apporté, parce que ça m'a quand même apporté beaucoup de choses, et puis retrouver ma place parmi les équipes à Paris.
Parce que finalement, dans toute cette aventure qui s'est faite assez, je mets des gros guillemets, hein, facilement, c'est-à-dire que les étoiles et les planètes étaient assez bien alignées,
oui,
depuis le début,
oui.
Et c'était ton premier obstacle, en fait.
Il y en a eu plein d'autres.
D'accord.
T'es confronté en phase industrielle, le prototype que tu reçois, tu l'aimes pas, tu travailles avec un distributeur avec qui ça se passe mal, plein de choses comme ça, en fait, où ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, et ça, c'est des challenges que je remontais, mais avec grand plaisir, même avec passion et avec l'envie d'apprendre, de m'améliorer. Quand on a fait notre première levée de fonds, j'avais jamais fait ça, c'était voilà. Mais aux États-Unis, pour le coup, je suis arrivée avec beaucoup d'énergie en me disant: ah, c'est un nouveau challenge. Je le voyais comme créer une nouvelle start-up finalement là-bas, donc j'étais très excitée par ça, mais l'excitation n'a pas suffi et je me suis totalement perdue dans mon manque d'organisation, ma perte de repères.
Et t'as réussi à te relever assez rapidement en arrivant en France. Tu disais quelques mois, du coup, t'as regardé ça comme un échec.
Oui, très vite, j'ai repris le travail très rapidement. Finalement, j'ai eu que quelques semaines où travailler plus de 4 heures par jour, c'était pas possible. Mais très vite, j'ai pu recommencer à travailler. C'est juste que comme ça faisait plusieurs mois que j'étais plus dans les bureaux de Paris, que je venais les voir qu'une ou deux fois par mois, mais de manière assez furtive. J'ai mis un peu de temps à retrouver, pareil, sur place, mes repères, surtout qu'on avait changé de locaux, donc mes repères rien que dans l'espace et puis parmi les équipes. Donc retrouver un équilibre, tout ça a mis quelques mois, mais finalement tout s'est rééquilibré assez naturellement au fil du temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est rééquilibré.
Et est-ce que tu arrives à avoir des moments pour toi, justement, des vacances ? C'est vrai que l'entrepreneuriat, souvent, on est à fond les ballons.
Oui, aujourd'hui, oui, c'est primordial. Bon, l'année 2020 est assez particulière. J'ai eu mes vacances de mars qui me sont passées sous le nez, mais voilà, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Mais non, effectivement, je déconseille la non-prise de vacances. Et nous, c'est ce qui s'est passé, hein, clairement, les premières années... on n'en prenait pas, ou très 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 peu. Et notamment, moi, en 2018, pareil, je crois que j'en ai pris très très peu. Enfin, tout ça a fait qu'il y a eu un pétage de câble à l'été 2018. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus rigoureuse, sur la prise de vacances. Et en plus de ça, comparé à avant, où quand j'en prenais, je ne déconnectais pas, là, maintenant, quand j'en prends, c'est la totale déconnexion, bien évidemment, sauf urgence. Mais sinon, c'est... totalement déconnexion. Et ce qui est super, c'est que j'avais peur du mental et que l'année dernière, je suis partie en vacances de semaine dans l'objectif de totalement déconnecter, mais j'avais vraiment peur de ne faire que penser à la boîte. Je n'y ai pas pensé une seule fois. Je n'ai pas culpabilisé de ne pas y penser. Ça a été une vraie déconnexion et ça m'a permis vraiment d'aérer mon cerveau, mon esprit. Et donc c'est possible. C'est possible. Tout le monde, quand je parle de ça, tout le monde me dit « mais c'est pas possible, t'as le mental ». Et ben j'y suis arrivée.
Wow.
Donc c'est possible. Et j'étais pas en train de culpabiliser, en train de me dire que je m'en foutais. Non, c'était pour justement pouvoir réattaquer. Ça m'a permis vraiment d'aérer le cerveau.
Et donc là, les projets à l'international, ça en est où ? Du coup, là, les États-Unis, vous avez laissé tomber ou
Non, on se concentre pour l'international sur les États-Unis, l'Espagne et l'Italie, qui sont les trois pays les plus prometteurs. Avec la situation actuelle, forcément, il y a eu des ralentissements, mais qu'on a étudié dès le début en fait, du confinement et on s'est dit, c'est pas grave, on prend notre année 2020 pour préparer l'année 2021. Et donc on a baissé nos attentes à l'international pour cette année, mais pour l'année prochaine, du coup, on se prépare bien.
Et alors, est-ce que tu aurais des conseils ou des tips à donner à des personnes qui veulent se lancer ou s'organiser ou,
Bien sûr, il y en a plein. Les deux principales, ça serait de se lancer passionné, c'est-à-dire de se lancer dans un projet dans lequel vous mettez votre trip, votre cœur, votre âme, et vous y croyez dur comme fer, et vous allez pouvoir le défendre coûte que coûte, et mettre toute votre énergie. Et la deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de s'associer, de pas partir tout seul, et de trouver un associé ou plusieurs, avec qui ça matche vraiment bien, avec qui vous avez les mêmes valeurs, très importantes, les valeurs alignées, parce qu'en fait c'est ça qui au fil du temps détermine beaucoup de choix, beaucoup de décisions, et donc de mettre le curseur sur certaines choses quand on prend une décision. Et donc les valeurs, c'est très très important, et oui, donc s'associer avec la bonne personne avec qui ça colle bien.
Et d'ailleurs, à 4, c'est pas difficile de prendre des décisions? Il y a des investisseurs avec vous maintenant?
Non, on a comme valeur partagée, on a été tout le temps assez alignés. Oui. Il y a eu certains débats, mais qu'en fait qui étaient des débats plus de discussions, de normal, on se pose et on en discute, mais in fine on était totalement alignés. Donc il n'y avait jamais eu de problème à ce niveau-là.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, l'entrepreneuriat, la création de cette société ?
Ça a fait que j'ai continué à apprendre au-delà des études tout le temps. À une vitesse grand V, j'ai dû faire alors pas experte, hein, bien évidemment, mais en tout cas j'ai abordé énormément de métiers différents. Aujourd'hui ça a changé ma vision de l'entreprise, ça a conforté le fait qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi là-dessus. Au-delà de créer des projets qui ont du sens, il faut aussi chambouler l'entreprise. Donc ça m'a juste ouvert ça m'a ouvert encore plus les yeux et l'esprit sur le monde et les choses sur lesquelles j'ai envie que l'uni ait de l'impact.
Et t'as réussi à garder ton imaginaire en grandissant?
Je crois, même je suis sûre que, et je suis extrêmement contente que c'est une des choses que j'ai réussi à préserver. Ça va faire très cliché de dire ça, mais j'assume. J'ai gardé complètement mon âme d'enfant intacte. Et aujourd'hui, je remercie aussi le fait d'être dans une position où on me préserve de beaucoup de choses du quotidien, notamment mon associé Igor qui gère l'opérationnel, pour préserver moi aussi mon côté imaginaire, pour imaginer le futur et ne pas être polluée par plein de problématiques du quotidien. Donc oui, j'ai gardé ça. J'y tiens. C'est la chose la plus précieuse que j'ai à l'intérieur de moi. Donc j'y fais très attention.
Tu veux pouvoir continuer à dessiner des portes à la craie
tout à fait.
Sur les murs des écoles.
Tout à fait.
Et alors, quels sont les projets pour l'UNI et quels sont tes projets à toi, rien que pour toi?
Oui. Pour l'UNI, on a encore beaucoup de choses à faire avec la Fabrique et l'Histoire. Parce qu'aujourd'hui, elle est dans les foyers des familles, mais on veut aussi se diversifier et proposer la Fabrique et l'Histoire comme audio guide pour découvrir des parcours culturels, des lieux, des musées, des expos. Aussi en faire un outil pédagogique d'apprentissage, donc être présent aussi en classe. C'est un projet qu'on construit avec les enseignants de cycle 1 pour en faire un vrai outil pédagogique et aussi un vrai outil de développement pour l'enfant pour traiter des troubles du développement, que ce soit de l'apprentissage, de la concentration, même du sommeil. T'as plein de choses qui sont dues d'ailleurs à une surexposition aux écrans, donc tu vois, on reste cohérent. Et aussi certains handicaps. Donc rien qu'avec la Fabrique à Histoire, on veut se positionner sur le domaine de la santé, de la culture et de l'éducation. Donc on a déjà beaucoup de choses à faire, en plus de l'international, avec rien qu'avec cet objet-là. Mais effectivement, on ne veut pas s'arrêter là. On est en train de préparer des projets pour les pré-ados et les ados sur des problématiques de connaissance de soi, de confiance en soi, par la fiction audio.
Génial.
Voilà. Et la grosse actualité, la grosse nouvelle et celle dont on est le plus fier de K-pop cette année, c'est aujourd'hui on fabrique la Fabrique à Histoire en France. C'est-à-dire, comme je t'expliquais au début, on est parti en Chine au début pour des questions de coûts. Et en fait, on s'est fait une promesse tous les quatre quand on a appris qu'on devait fabriquer en Chine. Moi d'ailleurs, j'ai mon petit cœur de designer qui s'est brisé en mille. On s'est promis que si ça marchait et si on en avait la possibilité, on rapatrierait la production en Europe ou en France. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dès qu'on a vu qu'on était en hyper-croissance. La question s'est posée. On a pris le choix d'investir dans ce projet de rapatriement et de proposer un produit aujourd'hui made in France où le prix n'a pas changé, le prix à la vente n'a pas changé et on en est très très fiers.
Ça, c'est génial.
Ouais. Et les projets rien que pour moi, aujourd'hui ils sont plus de l'ordre de réussir à déconnecter comme il faut parce qu'effectivement l'UNI prend beaucoup de temps au niveau énergie et même au niveau mental. Donc moi je m'applique plus aujourd'hui à avoir une routine saine, faire du sport régulièrement, bien déconnecter, voir des amis, la famille, c'est déjà aller dans la nature, enfin des choses très basiques mais qui permettent justement de récupérer de l'énergie autre part parce que ça reste un rythme assez effréné. Et à côté, moi j'aime bien écrire mais pour l'instant pour moi parce que j'ai des projets dans la tête que j'ai besoin de coucher mais que j'en fais pas grand chose pour l'instant.
Merci beaucoup Maëlle.
Merci à toi Shane.
Voilà une aventure entrepreneuriale qui fait rêver. Si vous souhaitez vous-même entreprendre ou que vous vous êtes déjà lancé, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller au bout de votre projet. Vous pouvez retrouver Ma Fabrique à Histoire sur le site luni.fr, luni.fr, pour découvrir le fameux boîtier fabriqué en France qui développe l'imaginaire de vos enfants. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours inspirant dans le Tourbillon Family.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.